France Culture.
Le journal Mathilde Ansker.
Bonsoir, une journée historique pour la Nouvelle-Calédonie. Les principales forces politiques ont signé un projet d'accord. Un État calédonien devrait être créé au sein de la République française, plus d'un an après les violentes émeutes qui ont fait 14 morts dans l'archipel. Emmanuel Macron instaure une journée d'hommage en mémoire d'Alfred Dreyfus. Elle aura lieu tous les ans, le 12 juillet. Dreyfus, symbole de la lutte contre l'antisémitisme et pour la justice. C'est un héros démocratique, nous dira un historien. Fin des négociations, Donald Trump annonce des droits de douane de 30% pour l'Union européenne et le Mexique, et ce à compter du 1er août. L'Europe laisse la porte ouverte pour trouver un compromis tout en évoquant de possibles mesures de rétorsion. Nous serons à Bruxelles dans un instant. Et puis l'Iran se dit prêt à reprendre des négociations sur le nucléaire, mais pas si on l'empêche d'enrichir de l'uranium, explication à suivre. Enfin, nous irons aussi en Géorgie où des opposants sont derrière les barreaux. 17 pays européens s'inquiètent d'une dégradation de la situation. Un texte et un statut inédit pour la Nouvelle-Calédonie. Après 10 jours de négociations à huis clos, les principales forces politiques de l'archipel ont signé ce matin un projet d'accord. Il prévoit la création d'une nationalité calédonienne et d'un État calédonien qui resterait intégré à la République française. Un an après les émeutes du mois de mai 2024, des émeutes qui ont fait 14 morts, le Parlement doit maintenant se réunir en congrès à Versailles pour valider ce texte, puis il sera soumis à un référendum en Nouvelle-Calédonie. De son côté, le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, salue un accord historique.
Oui, je crois que c'est un accord historique. C'est une preuve de la part des forces calédoniennes, un très grand sens de la responsabilité. Il y aura un État de la Nouvelle-Calédonie dans l'ensemble français, inscrit dans la Constitution de la République. Il y aura une double nationalité française et calédonienne qui sont intimement liées. On ne pourra pas les défaire. Tout le monde est français, même s'il y a cette nationalité calédonienne, une reconnaissance aussi internationale, avec davantage de souveraineté pour la Nouvelle-Calédonie, mais l'État assume des responsabilités régaliennes majeures, même s'il peut y avoir des évolutions à terme. C'est une construction intelligente qui rend possible maintenant l'espoir, celui de reconstruire la Nouvelle-Calédonie qui a été détruite par les émeutes de l'année dernière. Et sans accord politique, rien n'était possible et la Calédonie était sombrée dans le chaos. Avec cet accord, les bases sont là pour nous permettre de reconstruire.
Et le Premier ministre François Bayrou salue, lui, je cite, un accord à hauteur d'histoire. Alors, rentrons un peu plus dans l'esprit et dans le détail maintenant de ce document. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir.
La grande nouveauté, Stéphane, c'est qu'avec ce texte, ça y est, on sort de l'accord de Nouméa.
Oui, la grande nouveauté, effectivement, c'est qu'on sort de l'accord de Nouméa qui s'appliquait depuis 1998 et qui était un accord transitoire, un accord provisoire. Cet accord de Nouméa prévoyait l'organisation de 3 référendums d'autodétermination. Et si ces référendums ne débouchaient pas sur l'indépendance, rien n'était prévu. Il était simplement écrit, les parties prenantes se réuniront pour examiner la situation ainsi créée. On était donc dans une impasse juridique dont on n'arrivait pas à s'extraire depuis le dernier référendum organisé en décembre 2021, il y a presque 4 ans. Aujourd'hui, avec cet accord de Bougival, du nom de la commune où se sont tenues les négociations dans les Yvelines, on sort de cette impasse juridique. Ce n'est pas un accord transitoire. S'il est validé par la population calédonienne, après consultation par référendum, a priori en février, ce sera un accord pérenne, définitif, car il n'est pas prévu par la suite de nouveaux référendums d'autodétermination.
Et ce qu'il prévoit, c'est donc la création, on l'a entendu tout à l'heure, d'un État calédonien.
Oui, d'un État qui pourra être reconnu internationalement et qui pourra nouer par lui-même et en son nom propre des relations extérieures. La compétence en matière de relations internationales sera d'ailleurs pleinement transférée. Les compétences régaliennes, en revanche, qui sont les compétences de police, de défense, de justice monétaire, resteront exercées par l'État français. L'accord prévoit toutefois, à l'avenir, que ces compétences régaliennes puissent être transférées aux autorités calédoniennes si le Congrès de la Nouvelle-Calédonie en fait la demande et à la majorité qualifiée des 3/5. Ce nouvel État disposera également d'une loi fondamentale, c'est-à-dire d'une sorte de constitution qui sera intégrée à la constitution française. Ce qui a permis de débloquer les négociations au point mort depuis bientôt 4 ans, c'est la situation économique très dégradée de l'archipel calédonien. La Nouvelle-Calédonie est au bord de la crise. Et donc, sur la base de cet accord, la France France s'engage à continuer de soutenir l'archipel financièrement et à participer à sa reconstruction. C'est un accord et un statut totalement original, totalement inédit, qui ne consacre pas complètement l'indépendance de l'archipel, mais on n'en est pas très très loin. Charge maintenant à chacun des signataires de convaincre sa base militante sur le terrain en Nouvelle-Calédonie. Et ce ne sera pas simple, ni pour les indépendantistes du FLNKS, ni pour les loyalistes partisans du maintien dans la France.
Les précisions de Stéphane Robert. Le 12 juillet devient une journée d'hommage en souvenir d'Alfred Dreyfus, cet officier juif accusé injustement de trahison à la fin du 19e siècle. Annonce d'Emmanuel Macron ce matin. Emmanuel Macron qui appelle à rester vigilant contre les vieux démons de l'antisémitisme. L'affaire Dreyfus a ensuite déchiré l'opinion française pendant plus de 10 ans sur fond d'antisémitisme. Le 12 juillet, c'est le jour où la Cour de cassation a reconnu l'innocence du capitaine Alfred Dreyfus, qui est un héros démocratique pour Vincent Duclerc. Il est historien, professeur à l'École des hautes études en sciences sociales.
Cette décision du président de la République, donc d'instaurer donc cette journée de commémoration nationale, et peut-être reprendre le titre exact, pour Alfred Dreyfus, pour la victoire de la justice et de la vérité contre la haine et l'antisémitisme. Pour moi, effectivement, cette décision a beaucoup de sens parce qu'elle permet à la fois d'honorer l'engagement du capitaine Dreyfus, son combat personnel. Il n'est pas une victime, bien sûr. Il subit la raison d'État, une raison d'État du reste extrêmement violente, très impressionnante, mais il combat. Et à partir de ce moment-là, il combat pour, effectivement, au nom des valeurs qu'il connaît, ces valeurs de justice, de vérité, ces valeurs dans lesquelles il a été éduqué, voilà, des valeurs qui effectivement, reviennent de la Révolution française, de la Révolution des droits, et du reste, dans sa lettre, le Président de la République mentionne bien, je veux dire, que l'affaire Dreyfus plonge dans la naissance, en fait, des droits de l'homme et des citoyens. C'est vraiment de souligner, grâce à cette journée, que Dreyfus est un héros de la démocratie. La proposition et donc la décision du Président de la République donc d'instaurer cette journée de commémoration nationale pour Alfred Dreyfus me paraît une excellente chose. Et puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est de parler de toute l'action des Dreyfusards et de la justice. Le 12 juillet, c'est effectivement cet arrêt historique de la Cour de cassation qui a tout repris de tous les dossiers donc d'accusation contre Dreyfus, et qui a proclamé solennellement la pleine innocence de Dreyfus, sa complète innocence. Il a toujours été innocent, et ça, c'est un axe extrêmement fort.
Vincent Duclerc au micro de Mercia Nevitch. La première cérémonie en mémoire de Dreyfus aura donc lieu dans un an, le 12 juillet prochain. Ce sera alors le 120e anniversaire de la reconnaissance par la Cour de cassation de l'innocence de Dreyfus. Et puis de leur côté, les descendants du capitaine saluent aussi cette décision. La dimension héroïque d'Alfred Dreyfus a été trop souvent niée. Il a été un héros en se battant pour recouvrer son honneur, assure Michel Dreyfus, son arrière-petit-fils. Un bout de Bretagne à l'UNESCO. Ça y est, c'est officiel, les mégalithes de Carnac et les rives du Morbihan sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Érigés pendant plus de 2 millénaires au néolithique, ils s'étendent dans 28 communes du département. Parmi ces sites figurent donc bien sûr les alignements de Carnac avec ses longues allées rectilignes de menhirs de toute taille, des menhirs dont on ignore encore l'origine et la fonction. C'est le 54e site français à rejoindre la liste, sur laquelle on trouve notamment le Taj Mahal, le Colisée et le Machu Picchu. Ce sera donc 30% de droits de douane dès le 1er août pour tous les biens importés depuis l'Union européenne vers le marché américain. Annonce fracassante de Donald Trump cet après-midi, de quoi marquer l'échec des négociations en cours depuis plusieurs semaines entre Bruxelles et Washington. Côté européen, c'est la douche froide. Certains espéraient encore un accord avec des droits de douane autour de 10% et des exceptions pour certains secteurs. À Bruxelles, la correspondance de Jean-Jacques Herry.
L'annonce du jour donne donc l'impression à Bruxelles d'un retour au point de départ, mais en pire. Après avoir menacé l'UE de droits de douane à 20% en avril dernier, avant de se raviser et d'entamer des négociations, Donald Trump parle maintenant d'un tarif de 30%, soit 10% de plus, et ce, après plusieurs semaines de difficiles négociations avec l'Union européenne. Alors que va faire celle-ci ? Dans un communiqué, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, critique la mise en place de ces droits de douane, mais laisse encore une place pour un compromis. Nous restons prêts à poursuivre le travail vers un accord d'ici d'ici le 1er août, écrit-elle. Elle évoque aussi la possibilité de mesures de rétorsion si nécessaire, dit-elle, des contre-mesures protectionnistes qualifiées de proportionnées. Des mots beaucoup plus pesés que ceux du président américain qui, lui, menace déjà d'augmenter à nouveau ses droits de douane s'il prenait envie à l'Union européenne de riposter sur le terrain tarifaire. Difficile de ne pas voir une tactique de négociation dans ces menaces d'escalade vers une guerre commerciale contre son premier partenaire économique, avec toujours le même but, parvenir à un deal et boucler un accord à l'avantage des USA dans les 15 jours à venir.
Et à l'instant, Emmanuel Macron exprime sa très vive désapprobation. Il appelle les pays de l'Union européenne à défendre leurs intérêts. Ces droits de douane à 30% sont aussi appliqués au Mexique. Le Mexique qui a aidé à sécuriser la frontière, reconnaît Donald Trump, mais pas suffisamment à son goût. Le président américain reproche à son voisin de ne pas avoir arrêté les cartels qui font rentrer de la drogue aux États-Unis. Le Mexique dénonce de son côté un traitement injuste et assure être déjà en négociation pour convenir d'une alternative à ses tarifs douaniers. L'inquiétude des Européens maintenant face à la situation en Géorgie. Une déclaration commune est publiée aujourd'hui, signée par 17 pays, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Ces États se disent profondément inquiets de la vague de répression politique en cours dans le pays. L'un des éléments à l'origine de ce communiqué, c'est l'emprisonnement des chefs de l'opposition géorgienne. Pour les signataires du texte, il s'agit clairement d'étouffer l'opposition politique, alors que des élections approchent dans le pays, Nathanaël Charbonnier.
Une chose est certaine, on ne pourra pas reprocher aux Européens de ne pas dire les choses dans le dossier géorgien. Les pays signataires parlent de répression croissante, d'arrestations arbitraires, de détention de ceux qui critiquent les autorités géorgiennes. Sont concernés en effet beaucoup de monde, cela va des opposants politiques aux journalistes en passant par des représentants de la société civile. Autre phrase clé du communiqué, les ministres expliquent que l'on assiste actuellement à un démantèlement de la démocratie pour se diriger vers un régime autoritaire. Une direction que ne peuvent accepter les pays européens qui parlent de menaces et qui brandissent la possibilité de sanctions si les autorités géorgiennes ne changent pas d'attitude en matière de droits de l'homme. Ce texte sans concession vient s'ajouter à l'appel lancé la semaine dernière par Amnesty International qui a appelé à la libération des prisonniers politiques. Il faut savoir que depuis la victoire contestée du parti Rêve géorgien aux législatives de 2024, le pays traverse une grave crise politique. La Géorgie a même suspendu son processus d'adhésion à l'Union européenne.
Les précisions de Nathanaël Charbonnier. Il permet d'alimenter les hôpitaux, les systèmes d'approvisionnement en eau, les réseaux d'assainissement et les ambulances. Le carburant manque à Gaza. La pénurie atteint un niveau critique selon l'ONU. Cette agence onusienne publie aujourd'hui un communiqué. Elle dénonce un nouveau fardeau qui pèse sur une population au bord de la famine. L'Iran souffle le chaud et le froid sur le dossier du nucléaire. Le ministre iranien des Affaires étrangères rencontrait aujourd'hui des diplomates étrangers à Téhéran. Il affirme que son pays est prêt à reprendre des négociations, mais met en garde la Troïka européenne, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni qui menacent de durcir les sanctions contre l'Iran. Les précisions de Siavosh Ghazi.
Abbas Araghchi a dénoncé la politique des États-Unis qui ont trahi la diplomatie en soutenant Israël dès le premier jour de la guerre, avant d'attaquer à leur tour les sites nucléaires iraniens. Il a également lancé une mise en garde à la Troïka européenne qui menace d'activer le snapback, le mécanisme qui permet de ramener les sanctions onusiennes contre l'Iran qui avait été suspendu il y a 10 ans dans le cadre de l'accord nucléaire avec les grandes puissances.
Le snapback signifiera la fin du rôle de la Troïka européenne dans le dossier nucléaire iranien et sera sans doute la page la plus noire dans les relations des trois pays européens avec l'Iran.
Il a également ajouté que l'Iran refusait tout accord sans le droit à l'enrichissement d'uranium.
Dans tout accord sur le nucléaire, le droit à l'enrichissement d'uranium doit être respecté. Nous n'accepterons aucun accord qui ne comprendra pas l'enrichissement d'uranium.
Ces mises en garde ont été lancées alors que les États-Unis ont clairement affirmé que l'Iran devait renoncer à l'enrichissement d'uranium sur son sol, ce qui devrait compliquer encore davantage les relations entre l'Iran et les pays occidentaux.
Explication de Siavosh Ghazi. Un mot de météo pour conclure, avec des averses voire des orages en Occitanie, des orages qui pourront toucher ensuite la Provence dans la nuit. L'Aude et les Pyrénées-Orientales sont en vigilance orange, pluie, inondation. Et puis pour demain, le ciel sera nuageux autour du golfe du Lion avec encore quelques pluies. Des éclaircies s'imposent dans l'après-midi sur l'ensemble des régions méditerranéennes, du Massif central aux Alpes et au Jura. Le temps deviendra ensuite orageux. Les plus fortes pluies sont attendues en Auvergne avec un risque de grêle. Pour les températures, comptez 11 à 33 degrés pour l'ensemble de la journée. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Beneteau et à la technique, Olivier Arnet.